Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue Chag Sameach, on est toujours dans l'Akba Omer. Donc Chag Sameach, est-ce que tout le monde est là? Ouais, je vais attendre quelques minutes pour que tout le monde soit là. Si on peut me faire signe. Oui, oui, non, non. Non, oui, non. Je n'ai point de réponse. Pas de réponse. Oui, oui, ben c'est pas mal. Je vais essayer de voir en régie qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais très bien, très bien. Je vais juste attendre de voir ce qui se passe avec la régie. Est-ce qu'il y a quelqu'un de Midrashet Yehuda qui peut nous faire signe pour dire si on peut commencer ou pas? Est-ce qu'on peut commencer? Est-ce qu'on ne peut pas commencer? Oui, oui, non, 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 oui, oui. Compliqué, compliqué cette histoire. Où êtes-vous? Top. On n'a pas de nouvelles de la Midrashet Yehuda depuis maintenant presque 3 minutes qu'on a commencé donc notre shiur. Donc, ben, tant pis, on va faire sans eux. Hein, qu'est-ce que je te dise? On va faire sans eux. Et là, 3 minutes, je pense que c'est le temps syndical. On commence notre étude. Seider, yala, c'est parti. Donc, shalom à tout le monde. Chag Sameach, on est toujours donc dans l'Ag BaOmer. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on se pose la question, maintenant qu'on est donc presque après l'Ag BaOmer, eh bien, qu'est-ce qu'on en tire de tout ça? Qu'est-ce que doit être notre vision du monde et de la Torah après l'Ag BaOmer? En fait, aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup parlé de la Torah de la Kabbalah, de Rabbi Shimon Bar Yochai, et que son enseignement, eh bien, est celui qui nous a rempli à la suite de ce qui lui est arrivé et qui a traversé 2000 ans d'histoire pour nous permettre de sortir d'exil. Il y a Femerd. Et grâce à des individus, Yechidei Sgoula, comme on dit en hébreu, qui ont pris sur eux, eh bien, de dévoiler ces secrets-là, eh bien, finalement, on a pu sortir d'exil. La question est maintenant donc de savoir qu'est-ce qui se passe après. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe pour nous? Est-ce que nous intégrons... Alors, attendez, je vais juste fermer. Voilà. Il y avait du bruit dehors. Est-ce que, pour nous, ça va changer quelque chose? C'est-à-dire, est-ce que, pour nous, nous sommes arrivés à un moment où il est temps, eh bien, tout simplement, de faire notre la Torah ta Kabbalah? C'est-à-dire de s'en imprégner, pas seulement au niveau du rêve, mais de s'en imprégner et de la mettre au quotidien dans notre vie de tous les jours. Alors, c'est de cela que je voudrais qu'on parle aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette Torah de la Kabbalah? Il faudrait d'abord avoir une définition. Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, Zohar, mais c'est quoi? C'est quoi Torah de la Kabbalah? Eh bien, dans le Talmud, dans le traité de Baba Kama, on nous donne une phrase qui, comme ça, qui semble passer comme ça à l'as, tout début de Baba Kama, et qui dit la chose suivante. Divrei Torah, mi divrei Kabbalah, lai alfinan. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas de divrei Torah en se servant de divrei Kabbalah. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, si divrei Torah, c'est des halachot, nous dira Rashi. Eh bien, Rashi nous dit, divrei Kabbalah, c'est quoi? Eh bien, divrei Kabbalah, c'est Nevi'im, Nevi'im ou Ktuvim. Rosh Sekulam, Moshe Rabbein. En d'autres termes, qu'est-ce que c'est que divrei Kabbalah? C'est Torah Tanevi'im. Donc, qu'est-ce que c'est que la Kabbalah? Eh bien, la Kabbalah, semble-t-il, prend sa source dans la Nevoa. Mais allons-y un petit peu plus en profondeur. Nous dit la Gemara dans Maseret Brachot, à la page 34, nous dit la chose suivante. Tanu Rabbanan, Ma'ase Shechala Beno Shel Rabban Gamliel, Shegar, Ma'ase Shechala Beno Shel Rabban Gamliel. Donc, on nous raconte l'histoire que le fils de Rabban Gamliel est tombé malade. Shagar Shne Talmide Chachamim Etzel Rabbi Hanina Ben Dosa Levakesh Alav Chachamim. Il a envoyé deux émissaires aller trouver Rabbi Hanina Ben Dosa pour qu'il prie pour lui. Bah, la question qu'on pourrait se poser directement, c'est quoi? C'est bah, pourquoi tu ne pries pas toi? Tu es Rabban Gamliel quand même. Rabban Gamliel, pour la faire courte, c'est le Nassi à Sanhedrin. Ça, ce n'est pas un petit joueur. Donc Rabban Gamliel nous dit « Moi, je ne sais pas prier. » Rabbi Hanina Ben Dosa. Il semblerait que Rabbi Hanina Ben Dosa a quelque chose de très particulier. Finalement, donc, ils arrivent chez lui. Kevan Shera Otam Allah Le'alia Ubikesh Alav Rachamim. Il a vu les deux émissaires arriver. Il a vite compris qu'il s'agissait du fils d'une assise à Sanhedrin qui avait un problème. Il est monté sur le toit de sa maison et il a prié. Lorsqu'ils sont redescendus du toit, les deux émissaires arrivent. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas eu besoin d'arriver vraiment. Ils sont arrivés, il avait déjà fini de prier. Et Rabbi Chaim Ben Dosa vient leur dire « Tout ira bien, à Koltov, il va s'en remettre. » Et les deux Talmidei Chachamim lui disent « Allô ? D'abord, on ne t'a même pas encore dit, et puis comment tu sais qu'il va s'en remettre ? On venait te demander de prier, on ne te demandait pas forcément le diagnostic, la réponse. » Il dit « Non, c'est bon, tout ira bien. » Et là, les deux Chachamim lui disent « Ma vechi naviata ? Genre, tu es prophète ? Pour savoir de quoi on parle ?» Il dit non, lo naviani, velo ben navianochi, aval mekublani. C'est-à-dire, je suis un mekubal. Mais c'est mekublani. Mekublani mirabotai, chez im shgura befi, im shgura tfilati befi, yodéani chez ou mekubal. C'est-à-dire, je sais que si ma tfila, elle est entendue, si j'arrive à prier, c'est que je suis entendu, je suis exaucé. En d'autres termes, on voit ici que Rabbi Chaim Ben Dosa se représente comme étant un Mekoubal. Mais ceux qui le voient et qui voient ce qu'il est capable de faire lui disent quoi? Tu es Navi? Il semblerait donc qu'il y a un lien direct entre la Nevoa et la Kabbalah. Et comme je disais tout à l'heure, ben le lien, il est clair. C'est quoi? Eh bien, la Kabbalah, c'est la descendante de la Nevoa. C'est-à-dire, la Kabbalah vient essayer de transcrire dans un domaine intellectuel, ce que la Nevoa ressentait. Donc la Kabbalah, c'est évidemment les résidus de la Nevoa. C'est énorme. C'est énorme. Donc qu'est-ce que ça, c'est, ça veut dire quoi? Donc ça nous amène à quoi la Kabbalah? Eh bien tout simplement, ben, à avoir le dévoilement de Dieu. La Torah ta Kabbalah doit nous aider à avoir un meilleur dévoilement de Dieu. Donc, bah, l'une des grandes missions de la Kabbalah, on en a beaucoup parlé, c'est de nous faire sortir d'exil. Car en exil, il ne peut pas y avoir de dévoilement divin. Donc son grand travail est de nous faire sortir d'exil pour pouvoir intégrer le dévoilement divin. Aziafé, Torah ta Kabbalah, c'est ce qui nous sert à dévoiler Dieu. Mais j'ai envie de te dire, attends, moi je connais un autre truc qui permet de dévoiler Dieu. La halakha. La halakha. C'est un monde très clair, très codifié, bien déterminé, où grâce à ce monde-là, eh bien, je dévoile Dieu. Nachon. Gam la Torah Shebe Alpel nous vient de la Nevoa, je vous le rappelle. C'est-à-dire que je rappelle ce que Rashi disait de Divrei Kabbalah, Nevi'im uktuvim ve'rosh lekulam Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il est autant le Mekoubal en chef qui va enseigner à Rabbi Shimon Bar Yochai, il est également le Rav en chef qui va enseigner à Rabbi Yehuda Hanassi. Donc, bien sûr que la halakha est également du domaine du dévoilement de Dieu. En d'autres termes, dans notre monde, il y a tout simplement deux choses. Il y a deux univers. Il y a ce qu'on appelle moutard et il y a ce qu'on appelle assour. Mais pas choute. Kadosh Baruch Hu, il a mis en place des mitzvot, des averot, pas choute. Mitzvot assez, mitzvot lota assez, akol tov. Donc, en me référant au Shulchan Aruch, au Mishneh Torah, ce que tu veux, eh bien, je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ben, concrètement, ça veut dire la chose suivante. Prenons cette feuille de papier. Eh bien, là, je mets la limite. De ce côté-là, c'est mitzvah. Et de ce côté-là, c'est avera. Donc, c'est pas shoot. Là, je dévoile Akadosh Baruch Hu. Et là, je ne dévoile pas Akadosh Baruch Hu. C'est pas shoot. Nachon, c'est me hot pas shoot. Au niveau de la halakha, le monde, il est binaire. Moutard, assour. Sauf que, lorsqu'on y réfléchit, il y a un no man's land énorme entre halakha, c'est-à-dire entre mitzvah, et entre issour. En réalité, si je devais reprendre ma feuille, eh bien, il me faudrait en fait deux limites. Voilà. Mais deux limites. De ce côté-là, c'est la mitzvah. De ce côté-là, c'est la avera. Mais qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Eh bien, entre les deux, c'est quelque chose qui s'appelle le moutard. Moutard. Moutard, c'est le mitzvah. C'est comme le assour. Ça peut m'emmener au issour et ça peut m'emmener à la mitzvah. Le moutard, dans le langage de la Kabbalah, s'appelle klipat noga. Noga lo saviv, dira Yechezkel Hanavi dans son premier chapitre. En d'autres termes, klipat noga, le monde du moutard, eh bien, toute la question est de savoir est-ce que je l'embrasse ou est-ce que je le rejette. Encore une fois, je veux que ce soit bien clair. Et vous savez quoi? Je n'ai pas, évidemment, de feutre sur moi. Parce que je vais en trouver un là par hasard. Je vous demande une seconde. Eh bien, tu sais quoi? La folie, j'en ai trouvé un. Alors, attention, deux petites secondes. Voilà. Ça, c'est du crayon. Donc, je reprends mon schéma. Évidemment, j'ai crié victoire trop vite. Il ne marche pas. Voilà, on va le faire marcher. Yofi. Ça, c'est bien. Et ça, c'est pas bien. Donc voilà, mon schéma, je ne sais pas si vous le voyez bien. Bien, pas bien. Ok, donc, dans mon schéma, c'est clair, là, c'est la mitzvah, là, c'est la avera, on est d'accord. Mais on a dit, le côté du milieu, donc, c'est ce qu'on a appelé noga. Noga, mais le problème, donc, de noga, c'est qu'il peut m'emmener dans le bien, mais il peut aussi m'emmener dans le pas bien. Que faire, donc, à partir de ce moment-là? Quelle est la tendance halakhique par rapport à Noga, c'est-à-dire par rapport à ce qui n'est pas obligatoire? Eh bien, la tendance à l'Afrique, souvent, est de l'Ahmir. Qu'est-ce que ça veut dire, l'Ahmir? L'Ahmir, ben, ça veut dire tout simplement bouger le curseur. Bouger le curseur de quoi? Du Issour. Le curseur du Issour, qui était jusqu'à présent ici, eh bien maintenant, je l'ai bougé ici. Pour ne pas tomber là, bien sûr. Et donc, toute cette zone que je viens de hachurer, eh bien, c'est une zone où, bah, tout d'un coup, je ne peux plus dévoiler Dieu. Parce que comprenons bien, Dieu, il est présent partout. Il est présent et dans la mitzvah et dans la avera, barour. Mais il m'a demandé de ne pas aller chercher dans la avera pour le dévoiler là-bas. Ce n'est pas mon rôle de le dévoiler là-bas. Mon rôle à moi, c'est de le dévoiler dans la mitzvah. Donc, la tendance halakhique est de repousser le monde du assour pour ne pas tomber dedans. Mais le problème, c'est que toute cette zone-là, il n'est pas interdit d'y aller pour dévoiler Dieu. Il y a plein de choses à dévoiler là-dedans. En bougeant le curseur ici, je limite tout simplement la zone dans laquelle je peux dévoiler Akadosh Baruch Hu. Des fois, la Khumra, elle est nécessaire. Qu'est-ce que ça veut dire nécessaire ? Eh bien, ça veut dire que je me connais, ou mon rabbin me connaît, et il sait que j'ai besoin d'une protection, pour l'instant, temporairement, supérieure à ce que la halakha globale a donné. Et donc, si le rabbin sait que sa communauté en est là, eh bien, il est obligé de la harmir. Mais pour un moment. L'histoire est la suivante. Nous sommes au début du siècle, le Rav Kook est le rabbin de Yafo et des Moshavot. Et à ce moment-là, eh bien, il y a un homme qui vient d'inventer une machine permettant de sortir de l'huile de sésame. Folie. Et l'homme lui demande au Rav Kook une théouda de kashrout. Le Rav Kook lui donne. Et quelque temps plus tard, arrive le mois de Pessah. Et donc, ce vendeur-là demande une théouda de kashrout pour Pessah. Et le Rav Kook lui donne. Tous les rabbins de Jérusalem vont lui tomber dessus en lui disant « Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais c'est kitniot ! Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? On n'a pas le droit de donner des théodotes kashrout pour quand c'est kitniot ! Mais n'importe quoi ! Et tout ça, et tout ça, et tout ça. » Tov, ben c'est der gamour. Alors que faire ? Eh bien, à ce moment-là, puisque le Rav Kook a été mis à mal, eh bien, il est obligé de répondre. Bon, bah, il va répondre, nounou, et il va commencer une lettre, un ping-pong de lettres comme ça, une quinzaine de lettres, 14 lettres si je ne me trompe pas, d'arguments contre arguments, arguments contre arguments. Et le Rav Kook leur explique pourquoi ce n'est pas kitniot, et il leur donne toutes les raisons de pourquoi ça n'est pas kitniot. À la fin de la dernière lettre, qu'il envoie, du moins qu'il croyait être la dernière lettre, eh bien les rabbins de Jérusalem lui envoient une dernière en lui disant « Écoute, t'as raison. On n'a plus d'arguments, mais ça sera quand même interdit. C'est quoi ? Kacha. » Et à ce moment-là, le Rav Kook dit, écoutez, il va falloir que je dise la vérité à ce moment-là. Et là, il sort la grosse artillerie. Je voudrais vous lire la grosse artillerie, parce que cette grosse artillerie, elle est très importante dans le monde dans lequel nous vivons, qui malheureusement, dans certains milieux, eh bien, on a une tendance à la khumra toutes les 5 minutes. Nous dit le Rav Kook, et vous pouvez trouver le texte, dans le She'elot u'tshuvot Orach Mishpat, à la page 123, il dit la chose suivante. Ve'ikar anetiya lechumrot yeterot bema sheyesh derech slula al pi darchei haTorah le'akel ein ze milta dechassiduta klal. C'est-à-dire cette tendance qu'il y a à faire des chumrot en plus toutes les 5 minutes. Alors que dans des cas comme ça, dans les cas en l'occurrence, eh bien, il y a un moyen très facile de permettre, eh bien, ce n'est absolument pas une preuve de piété. Comment ça, ce n'est pas une preuve de piété ? Alors, Mazé ? Non, c'est l'homme milta de chassiduta klal. Ou kvar gina inyanze kedosh Hashem. Arav Chaim Vital, Be'akdama le Sefer Etzraim. Il dit, c'est pas moi qui dis ça. Celui qui a déjà dit cela, c'est Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, dans son livre, dans l'introduction de son livre, Etzraim. Ah bon ? Et qu'est-ce qu'il a dit ? Eh bien, il dit la chose suivante. Ve'diek shezeu midash shel mitrachakim mipnimiut haTorah rachmana litzlan maidata. Il dit, que Rabbi Chaim Vital a expliqué que ceux qui ont tendance à tout le temps mettre des barrières toutes les 5 minutes, c'est la preuve que ce sont des gens qui s'éloignent de la Pnimiut HaTorah, de Torah HaKabbalah. Lama. Il dit, Vezel Leshono HaKadosh. Le Rav Kook va citer donc Rabbi Chaim Vital. Qui besibat eyotam moasim be'etzraim, comme ils se refusent à Etzraim, vous savez, dans le Gan Eden, il y avait Etzachaim et Etzadat. Pour Rabbi Chaim Vital, Etzraim, c'est la Kabbalah, Etzadat, c'est la Halakha. Donc il dit, comme ils refusent Etzraim, Ein akadosh baruch hu ozer otam, vehem shogim bepirte Etzadat tovara. Dieu ne les aide pas non plus dans leur compréhension de Etzadat. Vehem me'aprim oto lera. Et il le transforme complètement en rat. Ou metam'im et ata'or, ve osrim et amutar, ou poslim et akasher. Ils interdisent ce qui est permis et ils rendent impur ce qui est pur. Atkan leshono. Dit donc le Rav Kook, la tendance à toujours vouloir rajouter une khumra, ce n'est pas une preuve de piété. Mais alors attendez, comment est-ce qu'on comprend? Comment est-ce qu'on comprend qu'il y a tellement de Mekoubalim qui prennent sur eux plein de barrières, plein de khumrot? Ils prennent sur eux pour permettre au peuple juif énormément. Ils sentent qu'ils ont besoin, eux, de faire un tikkun pour que le reste du peuple juif. D'autre part, j'aimerais faire ici une différence également entre la khumra et le hidour. C'est-à-dire qu'il y a plein d'endroits où on te dit « Ve'a mahmir, tavo alav bracha ». Tavo alav bracha, si je viens de dire que c'est un problème de l'ahmir. Non. Là où « a mahmir, tavo alav bracha », c'est là où il y a « machloket ». Là où on ne sait pas. Donc là où on ne sait pas, eh bien, il y a là, comme peut-être que c'est vraiment interdit, alors « tahmir ». Mais on ne parle pas de là où la halakha a été tranchée et on t'a décidé de te mettre une barrière. En fait, la koula, c'est-à-dire la permission, évidemment, là où c'est permis, là où c'est pas permis, ben c'est pas permis. Mais là où on peut permettre, eh bien permettre, c'est tout simplement faire bouger le curseur, mais de l'autre côté. C'est-à-dire augmenter la partie dans laquelle je dévoile Dieu. Tout simplement. C'est de cela qu'on parle. Notre monde de l'après, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est d'être capable d'augmenter la parcelle dans laquelle on va pouvoir dévoiler Dieu. Ce n'était pas faisable pendant 2000 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai dit que la Kabbalah, c'était la névoie. La névoie, elle a pour volonté de réunir tout vers le Créateur, puisqu'elle dit tout le temps « Ko Amar Hashem ». Ainsi a parlé Dieu. Regarde, voilà, ça c'est le dévoilement de Dieu. C'est-à-dire, c'est de montrer que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. Torah ta sod, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ça ne veut pas dire secret. Que veut dire le mot sod? Eh bien, c'est marqué dans le livre de Bereshit. À propos des fils de Yaakov, on nous dit Besodam, à propos de Shimon et Lévi. Il dit Besodam al tavo nafshi. Ou bikehalam al techat kevodi. Que veut dire le mot donc sodam? C'est la synonyme de kehalam, c'est-à-dire l'istoded, se coller, se souder. C'est de là que vient le mot en français d'ailleurs. Sod, zechibour. Torah ta sod, elle vient les chaber. Torah ta sod, elle vient unir. Elle ne vient pas diviser. Elle ne vient pas augmenter le monde qui dit ça c'est interdit. Elle vient dire Zé Tov, Zé Moutard. Si c'est assourd, bah c'est assourd. Elle ne dira jamais Torah Tassod que c'est moutard de manger du cochon. Non! Aval, elle te dira que là où par exemple, ni a ni mitzvah ni interdit, eh bien vas-y, dévoile la Kadosh Baruch Hu là-bas. Il y a un danger? Sois fort. Relève le défi. Évidemment, Torah Tassod ne pouvait pas être dévoilée en exil. Car on a dit que Torah Tassod, c'était la réunion, l'exil, a créé la plus grande désunion possible et imaginable. Quelle est cette désunion terrible ? Eh bien, mes amis, la désunion la plus grande, c'est la désunion qu'il peut y avoir entre le gouffre et la neshama. Entre le gouffre à Yehoudi et la neshama juive. En exil, à Gouf, à Yehoudi, à l'Achlichon. Le corps du Ham Israël, pas le mien et le tien, pas au niveau individuel, mais le corps collectif du peuple juif est parti en sommeil profond. Il ne lui restait plus que la Neshama. Cette Neshama, ouah, qu'est-ce qu'elle a souffert ? Qu'est-ce qu'elle a souffert, la Neshama juive ? Il était tellement facile de la faire taire à jamais. Combien de persécutions ? Combien de persécutions au fil de l'histoire ? Où on nous a simplement dit « Convertis-toi et tout ira bien !» En d'autres termes, détruis complètement ta neshama juive et tout ira bien. Et on ne s'est pas laissé convertir. Et on ne s'est pas laissé embrigadé dans une nouveauté qui s'appelait le christianisme. Ça a atteint son paroxysme il y a de cela 1000 ans, lorsque dans la vallée du Rhin, les croisés qui se sont mis en place pour la première croisade, eh bien, ont décidé qu'avant d'arriver en Terre Sainte, eh bien, ils allaient s'entraîner sur les communautés juives de la vallée du Rhin. Et ont massacré les juifs. Tout simplement, ils leur ont proposé d'abord, tu veux te convertir ? Super ! C'est ce que nos frères Ashkenaz disent le Shabbat lorsqu'ils font la tfila de Avarachamim. Pardon ? Et c'est maintenant que vous me dites ça ? Sur les infos de la Midrashet Yehuda, le cours est à 8h. Alors, excusez-moi, je vérifie. Je suis choqué. Deux secondes. Attends. Mais c'est très vrai ce que tu me dis là. Bon, ok, donc j'imagine qu'il y a plus de gens qui attendent à 8h. On reporte à 8h. C'est ma faute. Je ne sais pas quoi vous dire. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? On finit le cours et on le recommence à 8h ? Qu'est-ce que vous en dites ? Ou alors vous le prendrez à 8h, prenez-le à 8h25 en cours. Comme ça, vous aurez et le début et la fin. Ben voilà, c'est ma faute. Mais en même temps, fallait me le dire avant. Oy va voy. Bon, alors, 8h. Mais pourquoi il m'a rien dit quand je lui ai envoyé le lien à 6h30 ? Bon, ben, c'était une erreur. On va reprendre ça à 8h, donc on se retrouve dans une heure. Allez vous faire une pizza, une salade, ce que vous voulez. On se retrouve dans une heure.